19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ben oui, certains sont en vacances, mais d'autres sont toujours avec nous, hein. Bonjour à tous, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, et puis surtout, on est ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Allez, au sommaire de cette émission, vous savez quoi, je vais recevoir quelqu'un que vous connaissez bien. Il est écrivain, auteur, fondateur de la dictée géante, homme, personnalité engagée. Vous n'avez pas trouvé, Rachid Santaki. La classe internationale. Il sera avec nous dans une poignée de minutes pour parler justement de cette fameuse dictée géante sur le champ de Mars. Vous savez quoi? Pour préparer les JO 2024, eh bien, elle a eu lieu. Il a battu son record puisqu'elle a réuni 3000 personnes, 3000 participants, diffusés sur France Télévisions. Quel succès cette histoire quand même, hein. Il va nous parler peut-être d'un autre record mondial dans une poignée de minutes. Ensuite, après les débatteurs influenceurs, eh bien, vous savez quoi? Ils vont confronter leur point de vue. En ce moment, c'est beaucoup de clash en ce moment, hein, dans les informés. Alors, on va se calmer un peu, on va essayer d'échanger de façon constructive et intelligente. Alors, il y a l'attaque de l'Iran, on reviendra sur, évidemment, sur ce sujet. On parlera aussi, vous savez, de cette inquiétude des violences. On parle de la foire du trône, vous savez, où les gamins, on parle de RICS, hein, de plus en plus. Nous en parlerons. Et puis, l'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon. Tiens, clochette. C'est qui? Ça se passe sur CNews et c'est monsieur Georges Bensoussan qui a fait cette déclaration. Nous en parlerons. Alors l'islamisme, paraît-il qu'il a déclaré la guerre à nos pays, hein, ça c'est, on sent qu'on est en pleine campagne européenne. Hein. Alors, ah, on sent qu'il se passe quelque chose là quand même. Hein. Prêt à tout pour évidemment cogner en direction de, voyez, hein, de qui je veux parler, clochette. 0153 48 3000, c'est votre ligne, c'est votre standard, vous nous appelez, vous passez en direct. Et en toute liberté d'expression, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Rachid Santaki, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Rachid Santaki, quelle classe, ça va?
Bonjour Adil, comment?
Qu'est-ce que vous faites sourire?
Non, je sais pas si je vous vois, je te tutoie.
Comme vous voulez, on se connaît bien, donc il n'y a pas de problème. Si vous me tutoyez, aucun souci, vous savez, voilà, on va pas faire ceux qui se connaissent pas.
Tutoie,
non, mais moi, je vous dis respect parce que vous m'impressionnez, mon cher Rachid Santaki. Hein. Merci, franchement, je vous le dis. On se connaît depuis des années, vous m'impressionnez tout le temps, ouais. en permanence. D'abord, on va parler de votre dernier ouvrage, si vous pouvez évidemment nous en toucher quelques lignes, quelques mots, parce que ça, c'est l'écrivain qui parle, l'auteur. Allons-y.
Pour le coup, effectivement, je sors un ouvrage qui s'appelle Anissa, en version poche. Il est sorti l'année dernière et il sort et je vais aller le promouvoir. Je vais reprendre les vieilles habitudes et aller défendre ce livre qui parle justement d'un personnage double culture et double casquette, puisqu'elle est originaire de la périphérie et en même temps elle travaille pour le renseignement, la DGSI. Elle va être confrontée à une situation qui va l'amener à se poser la question de...
Elle est flic, quoi. Elle est flic.
Ouais, voilà, elle est flic. Exactement.
Elle est flic et elle vient de Seine-Saint-Denis. Et en gros, on parle beaucoup des attentats, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça. Pas forcément d'attentats, mais des agents justement infiltrés qui travaillent sur le terrorisme. Et pour le coup, vu ses convictions, puisqu'elle est musulmane, forcément, elle va se poser des questions sur son identité et son rapport.
C'est un polar, hein? Un polar.
Oui, un polar, c'est un polar.
Ça va finir sur Netflix, ça, non?
Je sais pas, il y a déjà quelque chose de prévu en novembre sur Netflix.
Non, mais c'est vrai, ce genre de polar finit souvent en série, non? Je le vois bien, d'ailleurs.
Il y a une série américaine qui s'appelle Splinter Cell, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est sorti il y a déjà 10 ans et qui posait un peu la question des agents infiltrés qui forcément sont confrontés à leurs origines et à leurs convictions. Et pour le coup, est-ce qu'ils basculent ou pas c'est un peu entre guillemets Homeland aussi, c'est un sujet qui était traité dans cette série qui date déjà.
Bon, en tout cas, il est d'actualité. Anissa, c'est d'actualité. On est en plein dedans, là. On parle de valeurs de la République, on parle du terrorisme, on parle de évidemment, de, comment dirais-je, de la Seine-Saint-Denis, on parle de DGSI, on parle d'attentats. Là, on est au cœur du sujet, là.
Hein. Ouais, mais surtout, en réalité, c'est pas tant ça. C'est plus la double culture. Et comment on fait quand on a des convictions. Et que finalement...
Parce que sa mère est française, hein, et son père, il est maghrébin.
Exactement. Marocain. Donc c'était un peu ça le sujet de ce livre, c'était de traiter la double identité.
Oui, mais elle se bat pour défendre les valeurs de la République, cette Anissa.
Exactement.
Non, non, écoutez, c'est bravo en tout cas, bravo à Rachid, parce que c'est une série de livres que vous avez écrit là. Hein. Il y en a
ouais,
pas mal maintenant. Hein. C'est ça fait une liste. 17, hein.
Je crois.
Bah, 17. Je les ai sous les yeux là. Vous en avez ouais, pas mal effectivement, pas mal. C'est aux éditions le Filature, voilà. Anissa. Allez vous le procurer les amis. Vous savez quoi, ça en plus c'est les vacances. Si vous voulez un petit polar. Rachid Santaki, vous savez, c'est la classe, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, allez vous procurer Anissa aux éditions Filature, c'est 2023, si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà une histoire qui va vous embarquer, vous savez quoi, dans notre République. Ça, voilà, on en a besoin. Bravo, mon cher Rachid Santaki. On va parler de cet autre record, 3000 participants diffusés sur France Télévisions à 100 jours avant les JO, les Jeux Olympiques. Pourquoi cette folle aventure, pour quelle raison?
Ah, ça a commencé maintenant il y a un peu plus de 10 ans avec un acteur associatif d'Argenteuil où il m'avait sollicité parce qu'il m'a vu lire une dictée à Clichy-sous-Bois. C'est vrai que j'ai commencé à faire dictée sans imaginer que j'aurais pas mal d'environnement particulier. Et cette dictée sur le Champ de Mars, en fait, c'est à la demande du Festival du Livre de Paris qui souhaitait justement faire appel à moi pour cette expertise autour de la dictée. Effectivement, avec Augustin Prapnard et
journaliste,
leurs auteurs.
Ouais.
Voilà, on a donc fait cette dictée. C'était vraiment, c'était un moment magique. Mais je suis parti aussi. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps.
Bah oui, parce que vous avez un agenda aussi de ministre ou de président de la République
non,
là.
Non, même pas. Mais je pensais, je suis parti faire une dictée en Tunisie en fin janvier à Sfax. Je suis parti aussi récemment au Qatar à Doha. Faire une dictée au lycée.
Quand je vous dis que c'est la classe, Rachid Santaki.
Ouais, non, c'est assez drôle autour de la langue française et la dictée.
Qatar, ça doit être quelque chose, non? Le Qatar qui a accueilli d'ailleurs la Coupe du Monde, ça a dû être quelque chose. Là, il a accueilli la dictée géante. C'est pas mal, ça, quand même, hein, comme référence.
Ouais, c'était une belle. Et c'est le lycée franco-qatarien, puisque les Qataris s'intéressent beaucoup, enfin, sont passionnés par la langue française, effectivement. Ouais.
Ils parlent tous français là-bas, j'ai vu. Hein.
Ouais, ils sont assez francophones. Après, ils sont anglais. Hein, c'est l'anglais leur première langue, mais il y a un rapport à la langue française qui est assez fort. Donc c'était une belle expérience.
À 100 jours des Jeux Olympiques, vous comptez vous inscrire, vous, dans le cadre des JO, justement, la dictée géante elle va s'inscrire aussi dans le cadre des JO, bientôt?
Oui, en Seine-Saint-Denis, pour le coup, vu que j'y habite et que j'étais pas mal actif, a priori, il y aurait...
Ah, ma question n'est pas loufoque, alors, donc...
Non, pas du tout. Elle est... Elle est d'actualité, puis surtout la langue française, c'est la langue quand même du CIO, donc forcément du comité olympique. Donc pour le coup, une dictée, s'amuser comme sur le Champ de Mars. En fait, sur le Champ de Mars, les participants sont venus, la dictée n'était pas notée, surtout ils sont tous repartis avec une médaille, mais une médaille fabriquée par la Monnaie de Paris. Donc c'était pas une médaille en TOG, je dirais. C'était vraiment... C'était de rassembler les gens autour de la langue française, les petits et les grands, sans notes, et surtout avoir les premiers médaillés, finalement, de ces Jeux Olympiques.
Dites-moi, Rachid Santaki, vous, le fondateur, justement, le père fondateur, d'ailleurs, de la dictée géante, c'est toujours le mot d'ordre, d'ailleurs, les défis, la langue française, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les adultes, les seniors, tout ça pour défier, en quelque sorte, l'orthographe française, hein.
Oui, l'idée, c'est que je pense qu'on est hyper connecté, on est hyper isolé avec nos téléphones, nos tablettes, dans tout ce qu'on a comme offre, même l'usage des vocaux. Et la dictée, en fait, c'est un moment où on se rassemble en famille, entre amis ou seul, pour s'interroger sur notre orthographe, mais vraiment de manière ludique, avec le jeu, avec des pièges forcément d'orthographe, mais c'est un prétexte pour rassembler les familles, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est chacun de son côté. Et que la dictée, c'est un des... Finalement, c'est l'équivalent d'un jeu de société qu'on peut faire. Et sans quand on retire la note et qu'on s'amuse et qu'on donne envie d'écrire aussi, bah, ça peut être un moment assez ludique et enrichissant. Puis les parents sont souvent friands et soucieux de pouvoir partager ce moment avec les enfants ou même entre amis.
Dites-moi, vous êtes en train de rentrer dans l'histoire, là, justement, dans le cadre des dictées géantes, parce que quel est le prochain grand défi qui risque de s'inscrire mondialement, je veux dire Rachid Santaki, dans le record? C'est quoi votre prochain grand défi?
Prochain grand défi, c'est d'organiser une dictée francophone à l'étranger, mais avec un record incroyable. Après, je ne peux pas dévoiler quel pays, mais je suis en train de travailler là-dessus. Et c'est assez marrant de parce que tous les records ont été faits. Il y a eu le Stade de France, il y a eu l'avenue des Champs-Élysées, il y avait le Champ de Mars. Et c'est vrai que c'est avec de grosses audiences. Ouais. Mais la prochaine dictée, justement, ça va être de sortir ce record hors de France.
Ouais. Bah, franchement, bravo, bravo.
Merci.
Autre ouvrage prochainement, mon cher Rachid Santaki.
Oui, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de parler de d'un contexte familial, puisque mon père était chauffeur de calèche, et je prépare un livre sur une histoire familiale, puisqu'on a une calèche, la numéro 53 Marrakech, et j'ai envie de raconter toute cette histoire familiale autour de
numéro 53. Et ben comme ouais, ça on ira pour tous celles et ceux qui se rendent à Marrakech, allez vous rendre au numéro 53. Ils peuvent venir de votre part, Rachid Santaki. Ah, c'est génial.
Écoutez, le projet c'est d'écrire un livre sur cette histoire familiale, sur cette calèche, et j'ai bien avancé, donc j'espère finir ça d'ici l'été.
Mais vous êtes en train de rivaliser avec Marc Lévy, vous dites donc, hein.
Oh là là, non, je suis loin de rivaliser. Je crois que je suis là à 50 ouvrages et en termes de vente, c'est assez conséquent. Pourquoi pas.
Bon, en tout cas, auteur contemporain renommé, Rachid Santaki, de plusieurs ouvrages, je le rappelais, on en parlait évidemment plus d'une quinzaine même d'ailleurs. Le père fondateur, vous savez, de la dictée géante, autre record à battre, évidemment, à venir, il vient de vous l'annoncer en exclusivité ici, dans un pays qu'il ne citera pas pour le moment, mais affaire à suivre. Et puis un ouvrage, très prochainement, concernant l'histoire de son papa, le numéro 53, justement, la calèche, hein, qui appartenait à votre papa, si j'ai bien compris, à Marrakech, c'est ça.
Qui appartient toujours
d'ailleurs. Ah ben vous savez que si on est de passage à Marrakech, je vous promets on ira voir la numéro 53. On va tous aller voir le numéro. On veut la 53. On va aller voir la 53, la numéro 53 s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe avec le phénomène 53? Ben c'est Rachid Santaki, c'est son père. Voilà tout simplement. Bravo Rachid, hein. Franchement frérot, je te le dis, moi je suis fier de toi, je te le dis, fier de toi.
Merci pour ton soutien et merci aux auditeurs, aux auditrices.
Ben écoute, au plaisir.
Pour le plaisir à dire, prends soin de toi.
Allez, les informés continuent. Numéro 53, je vous le dis. Hein. Ménad, vous rentrez de Marrakech, vous, en plus?
De Rabat, mais j'étais à Marrakech encore avant.
Allez voir. Non, mais faut aller maintenant. Faut aller voir le numéro 53 maintenant.
Je viens de le noter.
L'Obla, numéro 53.
Et j'y vais cet été.
Vous y allez? Alors, allez voir le numéro 53. Oui. Non, mais parlez-en autour.
Bien sûr.
C'est un frérot,
ce
Rachid.
Non, mais ce sera fait.
Il faut
le
soutenir. Ah, vous êtes encore là, Rachid?
Ah ouais, moi j'écoute.
Ah vous êtes là, moi je croyais que vous étiez le standard, vous avez raccroché, j'aime bien. Non, vous avez vu? Non mais attendez, ça tombe bien, vous avez vu, j'étais en train de faire votre promo, Rachid. Hein.
Aux intervenants.
Vous avez vu?
Intervenants, d'ailleurs.
Vous avez vu, j'étais en train de faire votre promo, Rachid. Hein.
Merci Adil.
Jimmy Dalidou, numéro 53.
Yes.
Alors il y en a un, vous savez quoi? Attendez Rachid, il est toujours avec nous, Rachid. C'est le conseiller régional Philippe Nadjib Ouayaki. Monsieur le conseiller régional, il est tout le temps à Marrakech.
Oh, hey, ça y est. Ma carrière vient de s'arrêter.
Numéro 53.
53, bah oui, je vais toujours 53.
Faites la promesse, en direct.
Quoi?
Vous irez voir le numéro 53.
Alors, il faut me donner l'adresse, etc.
Mais la calèche 53.
Oui, mais il y a plein de calèches. Bah,
la calèche 53.
La numéro 53.
La numéro 53.
Non, mais à quel endroit elle se trouve?
Bah, elle se trouve sur la place Jemaa'afna.
C'est ça?
C'est ça? La plage Jemaa'afna.
Exactement, la plage Jemaa'afna.
D'accord.
Faut en parler, hein.
J'en parlerai.
Ah oui, il faut soutenir.
La calèche de l'Elysée avec du fric dedans.
Ah, mais c'est pas
faut soutenir.
Promo, tu rigoles pas.
Hein? Comment?
T'es parti en promo, tu rigoles pas pour la 53.
Ah ouais, bon, on va appeler l'ouvrage numéro 53.
C'est peut-être le titre.
Numéro 53, tu vois, c'est pas mal.
Mais ça arrange la tête.
Qu'est-ce qu'il y a, Ménad?
Non, je disais, pour Philippe, il faut mieux aller à Marrakech qu'aller en Polynésie.
Ça, c'est sûr.
Tout à fait, mais ça, c'est surtout à Hidalgo qu'il faut dire ça.
Ouais. Justement, donc, la carrière.
Bon, merci Rachid, je vous libère, hein, parce que nous, on va enchaîner. Hein.
Et bonjour à tous les intervenants.
Merci à vous. 19h15, on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, justement, avec les débatteurs influenceurs. Et on commencera avec ce premier sujet, l'attaque de l'Iran contre Israël. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti. Vous savez, chers amis, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Qu'est-ce qu'il est bon, cela, là, la réalisation. L'Obnasta. Comment ça va, Europe Écologie au Centre? L'écologie au centre. Je l'ai remixé, moi.
Ah oui. Non.
L'Europe écologie au centre.
L'écologie au centre.
Je sais bien que c'est l'écologie au centre.
Mmh, ça va très bien, Adil. Merci beaucoup.
Ça va,
beaucoup.
Toi, bien?
Ça va, je vous remercie.
Bon. Ménad Ouchenir.
Adil Farkan.
Quel plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps, dis donc.
Réciproquement, oui, ça fait très longtemps.
Vous avez
trop
disparu,
longtemps,
non?
Adil.
Vous avez disparu, là, vous étiez.
Un petit peu, mais je réapparais toujours.
Bah oui, vous nous avez manqué, cher ami. Écoutez. Vous avez laissé votre place, là.
Oui. Ouais. Mais du coup, je suis revenu, vous voyez.
Je croyais que vous nous en vouliez, je sais pas.
Ah, jamais.
Jamais. Jamais. Jimmy Dalidou.
Bonjour à tous.
Auteur, représentant CGT.
Toujours, toujours.
Toujours. Le conseiller régional et le co-porte-parole de l'écologie au centre. Il s'appelle Philippe Barrière. Philippe Nadji Bouriaki.
Philippe Barrière, tu peux le dire.
Philippe Barrière.
Volontiers tout de suite. Moi, je change de nom.
Exactement. Qui s'est passé, tiens, je m'adresse à vous deux. Qui s'est passé avec votre collègue là qui.
Nadine Errati.
Photo retouchée, la totale, elle a fait le buzz. Elle est passée chez tout le monde, chez Hanouna. On parle que d'elle.
Bah, c'est normal.
J'ai fait la comparaison entre la vraie version et.
Oui.
Ouais, pourquoi là ? J'ai cherché à faire le buzz, c'est ça ?
Ben, c'est pas chercher à faire le buzz pour moi. Je laisserai parler après Philippe, bien sûr, parce qu'il a plus d'arguments. Mais pour faire parler de nous, il faut bien passer. Quand une affiche de femme fait plus parler qu'un livre, je me pose des questions sur la société et la médiocrité de notre société. Et maintenant, je ne laisserai pas Philippe parler.
Opération de com réussie, parce que.
Complètement.
Et on voit que ça, l'écologie au centre partout.
Bah oui, mais le
président, il doit être content là.
Non, c'est tous les partis, enfin tous les adhérents, tous les militants, tous ceux qui font campagne au quotidien et qui sont invisibilisés, comme nous l'avons été. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en vérité, Adil, et on peut pas le faire leur proche, en tout cas à Beurre FM et à CNews. Merci infiniment de nous donner la parole. C'est que j'ai été déprogrammé sur CNews à cause de l'ARCOM. Je tiens à dédouaner CNews parce qu'ils donnent la parole à tout le monde et à toute la diversité, et y compris les quartiers populaires. Alors qu'on en pense ce qu'on pense de CNews, mais au moins il faut y aller, il faut boxer avec ceux qui sont en face. Et donc CNews s'excuse en disant voilà, l'ARCOM nous met des règles intenables et donc malheureusement on est obligé de te décommander. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que l'ARCOM se base sur la représentation au Parlement national, et donc si vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas le droit à la parole, et sur des sondages. Et on sait que les sondages sont complètement aléatoires. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On dit, puisque l'ARCOM ne va pas nous donner la parole, on va la prendre. Alors, vous pouvez faire des coups d'éclat comme font Europe Écologie Les Verts, se mettre, s'attacher à des trucs,
et twerker,
et puis embêter le tout à chacun qui veut se déplacer. Et ben nous, on a trouvé, et je remercie Juliette d'avoir eu cette très bonne idée, la possibilité qu'on parle de nous et en même temps de dénoncer les dangers qui sont liés à l'intelligence artificielle. Parce que la photo a été faite par intelligence artificielle. Et en même temps, on met le focus sur quelque chose de très grave, parce que plein de gens, on va se le dire entre nous, quand ils ont vu la photo de Juliette, ils ont dit « Ah, je vote pour elle tout de suite ». Ça veut dire quoi ? Parce que le physique, comme Marion Maréchal Le Pen, vous donne envie de voter sans même regarder le fond et l'intérêt du programme.
Oui. Donc le paraître au lieu de l'être.
Ça remet la lumière sur la condition de la femme. Tais-toi, Loubna.
Le paraître au lieu de l'être, ça me désole. La médiocrité de la France.
Non, pas de la France, mais du monde en général qui fait sur.
Oui, mais la médiocrité, enfin, je sais pas, des humains.
Bon, en tout cas, c'est. Voilà. Vous avez expliqué les raisons, effectivement. Allez, on va parler de l'attaque de l'Iran contre Israël. Vous savez quoi ? Téhéran répondra à la moindre action israélienne. C'est clair, a-t-il déclaré le président. Il prévient, l'Iran, attention, provoquerait une réponse sévère si Israël décide de riposter. Jimmy Dalidou.
Ben écoutez, si c'est moi qui commence, effectivement, je pense qu'on a vécu, on est en train de vivre ce qu'on appelle un bond qualitatif, c'est-à-dire un changement soudain, profond, brusque, relativement violent, dans un contexte mondial changeant. Force est de constater que les Iraniens ont... Alors moi, c'est pas une menace, je parlerai pas d'une menace iranienne. Je parlerai d'une contre-offensive, d'une légitime défense, puisque je rappellerai quand même, c'est bon de rappeler, parce que certains médias mainstream évitent d'en parler, que l'ambassade de le consulat de l'Iran à Damas a été pulvérisé par l'armée israélienne, et qu'il y a eu quand même plus de 7 morts, parce qu'il faut compter aussi les passants qui passaient à côté du consulat et qui avaient rien demandé à tout le monde, qui se baladaient dans la rue comme tous les citoyens, et qui ont été pour certains gravement blessés. Donc si vous faites c'est clairement une déclaration de guerre. Si vous voulez, quand vous bombardez un consulat ou une ambassade et que vous faites des morts, quel que soit l'endroit où elle se situe sur la planète, vous déclarez la guerre au pays. Donc moi je trouve que l'Iran ils ont été très responsables dans leur réponse, parce que si vous analysez d'une manière objective et rationnelle les capacités objectives, les capacités, la puissance de feu iranienne, ils auraient pu être beaucoup plus sévères. Donc ils ont été, et de plus, n'oubliez pas que la contre-offensive, la légitime défense de l'Iran, ça a été une frappe de dissuasion.
Dissuasion.
Une frappe de dissuasion. Et d'ailleurs, je vous rappellerai que cette frappe a été anticipée une semaine avant. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution ont dit, on va frapper dans quelques jours, On ira, ce sera une frappe sous contrôle, je reprends le terme qui a été utilisé, sous contrôle. Ils ont prévu, ils ont anticipé. Et malgré ça, force est de constater que la défense israélienne a eu quand même des trous dans la raquette. Pourtant, ils avaient prévenu une semaine avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu dommage parce que...
Il a le droit à une clochette.
Il faut soutenir la base de
Jimmy Dalidou. On parle de guerre là.
Quel est le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'on soutient la résistance palestinienne qui vit un des génocides les plus graves de cette dernière décennie. Et l'Iran fait partie des soutiens de la résistance palestinienne. Et à travers l'Iran, on soutient la résistance palestinienne.
J'ai vu Ménad secouer la tête à plusieurs reprises.
Oui, bien sûr. Alors, il y a un avant et un après, justement, l'attaque du consulat iranien à Damas. C'est que Israël, sur le plan purement géopolitique, justement, ça tirait pas mal de foudre. Et notamment, le retrait relatif, certes, mais quand même, du soutien américain à leur offensive sur la bande de Gaza. Et tout d'un coup, avec cette... appelez ça comme vous voulez, contre-offensive mesurée, ne sais quoi, ça reste un acte de guerre aussi, même si c'est une réponse à une attaque, tout ça, c'est pas le jeu de qui a commencé. Il y a une victime collatérale là-dedans, ce sont les civils palestiniens. Puisque finalement maintenant, les projecteurs, les médias mainstream, comme les énormes Jimmy, se sont orientés plutôt sur Israël et sa riposte et redonnent à Israël le bon rôle puisqu'ils se défendent contre cette pluie de drones et de missiles envoyés d'Iran, mais pas que, hein, parce qu'on avait aussi le sud Liban avec le Hezbollah qui les a attaqués. Donc je dis simplement que moi je suis pas forcément un stratège de guerre, mais dans les faits, et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réunion des Nations Unies qui devait parler de l'éventuel cessez-le-feu qui tarde beaucoup. Et bien finalement, cette réunion, elle a été consacrée à parler de la riposte israélienne contre l'Iran. Donc encore une fois, la victime collatérale, les victimes collatérales de cet acte-là, de cette réponse-là, ce sont les civils palestiniens qui continuent de subir, et je dirais aussi les otages israéliens qui sont toujours pas libérés.
C'est quand même du blablabla assez surprenant de la part de Ménad. Parce que deux choses, il n'y a pas d'otages d'un côté ou de l'autre. Je rappellerai quand même qu'il y a des prisonniers de guerre comme toutes les guerres malheureusement. Je rappellerai quand même qu'avant qu'il y ait le 7 octobre 2023, c'était plus de 200 enfants.
C'est en prison,
de plus de 200 enfants et plus de 8000 hommes, Fabien Fant, ont été emprisonnés.
Ils sont toujours emprisonnés
dans des centres de détention israéliennes. Personne n'en parle, d'accord?
Qu'est-ce qui vous est
prisonnier palestinien dans Israël?
C'est quand on commence.
Donc l'histoire a commencé avant le 7 octobre 2023, je rappellerai quand même.
La compta du nombre de, eux ils ont tué tant, et quand on commence à faire une compta morbide avec le nombre de corps empilés de part et d'autre de la frontière. Il y a des civils qui n'ont rien demandé, d'ailleurs vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a des gens qui passaient devant le consulat iranien à Damas qui n'ont rien demandé et qui sont morts pour le coup. Moi je serais toujours du côté de ces civils-là, que ce soit des civils qui font une rave party, qui se font ensuite prendre en otage, parce que c'est des otages, un prisonnier c'est en prison, un prisonnier il va en prison suite à un procès, équitable ou pas, peu importe, là c'est pas le sujet. C'est bien des otages. Donc moi je serais du côté des otages, des civils israéliens, des civils palestiniens et du pauvre ou de la pauvre civile syrienne ou syrien qui a rien demandé et qui se prend.
Qui se prend effectivement. L'Oblasta.
Je dis que tout commence à son départ. En fait, à partir du moment où je rejoins Jimmy, à partir du moment où on a bombardé,
Va rejoindre l'écologie au centre, Jimmy. Il est pas centriste, lui. C'est un homme de l'extrême droite.
Il faut socialiser les moyens de production. Oui, mais je pense pas que les écologistes soient
centristes. C'était une boutade.
Là, c'est mon avis. C'est comme Israël a le droit de se défendre, l'Iran a également le droit de se défendre. Donc, le 1er avril, l'ambassade iranienne s'est fait bombarder. Maintenant, il faut espérer une désescalade de part et d'autre pour justement éviter les dommages collatéraux qui sont les victimes gazaouis.
C'est l'escalade dont tout le monde craint aujourd'hui.
Israélienne. Et iranienne.
Disons qu'il y a quand même une grosse...
Vas-y, Philippe. Philippe Nadjiboye, on ne l'a pas entendu.
Si on est dans la boutade... Je suis désolé, les Iraniens n'ont pas compris la blague du 1er avril des Israéliens. Évidemment, tu peux mettre une clochette, c'était pour défendre
la clochette. Les poissons d'avril sionistes, je m'en méfie, moi.
Non, mais il a commencé par dire c'est une boutade.
C'est une boutade, je voulais juste défendre l'atmosphère. Je voudrais dire que je ne comprends pas comment on peut soutenir un régime théocratique. Je vous rappelle qu'il y a des femmes qui meurent en Iran parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas porter le voile. Par exemple, je rappelle que si tu es homosexuel en Iran, tes heures sont vite comptées. On ne parle pas de procès,
mais il
n'y
a pas que l'Iran. Il n'y a pas que l'Iran.
Bien sûr, la Russie, c'est pareil.
Le problème qui se pose, Philippe, tu tombes dans le piège.
J'arrive.
Le gros piège, c'est un discours de macroniste.
Non, pas
je t'explique
pourquoi. Inch'Allah, comme dirait mon cousin. Mais ce que je veux dire par là,
n'utilise pas ce genre de mots dans ce genre de discours, s'il te plaît. Non, mais tu parles de l'Iran, mais écoute, que ce soit ce qui se passe en Iran.
J'ai pas fini. Si tu as un désaccord politique avec les mollahs, tu finis en prison, dans le meilleur des cas, torturé. Et puis assassiner.
Et donc.
Mais j'y arrive. Donc soutenir.
Laissez-le finir, Jimmy Dalidou.
C'est très compliqué.
Il est chaud, hein.
Mais soutenir une dictature qui, je rappelle du coup, a vachement échoué, parce que quand on voit 300
drones. Non, mais on ne parle pas du régime économique social iranien. On parle d'un fait qui s'est produit, qui a été une légitime défense du gouvernement.
Je crois qu'on n'est pas clashé aujourd'hui.
La légitime défense.
Reste sur l'axe central de la discussion.
Jimmy
Dalidou.
Vers une analyse qui est pas du tout là.
C'est comme à l'école, hein. On va vous punir, hein.
Non, mais écoutez, non, parce qu'en fait, monsieur,
je veux dire, non,
c'est une défense. C'est l'autodétermination des Iraniens, en fait.
Non, non, pas du tout. Ah ben non, il n'y a pas d'autodétermination.
Je suis pour le débat. En fait, ce qui me fait laissez-le finir. Philippe,
en fait, on est tous là à discuter
pour l'autodétermination. C'est radical pour elle. Et puis, toutes celles qui sont arrivées juste derrière et tous ceux qui ont manifesté pour avoir plus de démocratie, de liberté. Je pense à toutes celles jeunesses iraniennes qui souffrent au quotidien. Et puis, la légitime défense, c'est le fait de réagir à l'instant T de manière proportionnée à l'agression dont tu as été victime. Quand on voit 300 missiles, roquettes, machin, etc., c'est pas la légitime défense, là. C'est une attaque.
Non, c'est une légitime défense, monsieur. Parce qu'il y a eu une déclaration de guerre lorsque le consulat de l'Iran à Damas a été pulvérisé avec israélien.
Tu attaques de l'espoir.
Je parle du contexte iranien. Encore une fois, tu ne peux pas te substituer à l'autodétermination du peuple iranien. De même qu'on ne peut pas se substituer à l'autodétermination du peuple
palestinien. Macron a été élu l'autodétermination du peuple français.
On n'a aucune légitimité morale pour se mettre à la place, pour décider à la place du peuple iranien. Il y a un fait, le consulat de l'Iran à Damas a été pulvérisé avec des morts dedans.
Il faut que tu sois un petit peu moins sectaire et que tu ouvres les écoutes.
Au contraire, je suis très objectif.
Est-ce que je
reste sur une analyse de la
Est-ce que je peux finir, mon ami? Bon.
Non, là, vous ne l'avez pas écouté.
Mais il refuse d'écouter. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre.
En fait, vous vous écoutez, mais vous vous écoutez pas.
La légitime défense.
C'est un discours qu'on sait d'avance ce qu'il va dire, en fait.
Bon, alors, je vais dire quoi?
Vas-y, t'es en train de nous faire croire que les conséquences. T'es en train d'essayer de faire croire aux auditeurs que les conséquences de ce qui s'est produit historique.
Je mets une question légitime défense.
De l'Iran face à une agression.
Je vous ai laissé, mais franchement, laissez-le. Allez, Jimmy Dalidou.
Laisse les auditeurs pouvoir avoir un avis éclairé. Ce que je veux dire, c'est la légitime défense. On a bombardé votre consulat, vous bombardez un autre consulat. Ça, c'est la légitime défense. Mais quand je t'envoie 300 requêtes, c'est pour faire un peu plus de dégâts.
Mais c'est pas grand-chose.
Pause et on se retrouve dans une polémique.
C'est pas grand-chose, il a dit.
Pour parler, ça ne rassure pas l'inquiétude des violences en série à la fin du tournoi. Tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous savez, avec l'Obnasta, avec Medad Ouchenia, Jimmy Dalidou et enfin Philippe Nadjiboyaki. Allez, madame, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, de ces violences, des violentes altercations ont éclaté ces derniers jours dans la fête du trône, dans la fête foraine parisienne. La question que je vous pose aujourd'hui, vous savez, ce qui m'intéresse, beaucoup de parents nous écoutent, c'est que souvent, ces rivalités entre bandes, ces altercations, ces filmés sur les réseaux sociaux, ces vidéos nuisent à l'image, évidemment, à la fois des familles, mais c'est aussi des forains, mais surtout, c'est que c'est devenu, ça se banalise. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est gratuit, Mélad Ouchenir, non ?
au-delà du fait qu'on
s'amuse, on s'amuse.
Oui, ça, en fait, c'est un phénomène qui a toujours existé. On peut se le dire aussi. À la différence qu'aujourd'hui, il y a une mise en scène donc permise par nos nouveaux moyens d'interaction de communication, les smartphones vidéo, les réseaux sociaux.
Bon, ben là, c'est la bagarre. Les parents sont inquiets. Hein.
En l'occurrence, ça crée une forme d'émulation, ça crée une forme de compétition dans le caractère morbide et spectaculaire des choses, et qui fait qu'il y a une surenchère qui se fait.
Non, mais vous répondez pas à ma question, mais Nadou Chénier, la violence juvénile aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet, oui ou non ?
Ça, oui, mais je dis que ça ne date pas que d'aujourd'hui.
Sûr.
Ah, alors, est-ce qu'on a évidemment des solutions ?
Alors, les solutions, elles ont été évoquées par dizaines ces dernières années. Il y a même quelqu'un qui voulait remettre en place des espèces de des centres de correction. Enfin, je sais plus. Enfin, depuis Ségolène Royal, d'ailleurs.
C'est ça, 2007.
C'est un vieux loup de mer qui est à la fois infinançable et inefficace. Non, les solutions, elles sont extrêmement hétérogènes. Donc, bien sûr, les parents. Moi, je le redis, je l'ai déjà dit ici sur d'autres sujets. La responsabilité des parents. Engager la responsabilité des parents. On a déjà un arsenal juridique.
C'est là-dessus. Pas la solution, mais non.
L'école. Elle est protéiforme pour moi.
Les parents travaillent.
Je suis sûr que d'autre part, il n'y a pas des mesures concrètes sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent les réseaux sociaux. On ne peut pas recadrer davantage les réseaux sociaux pour éviter évidemment que ces vidéos soient diffusées et vues par tout le monde, parce que. Évidemment, ça devient du voyeurisme.
Les réseaux sociaux, c'est un canal, c'est entre guillemets, c'est si j'ose dire, indomptable. Non, mais au sens strict, et même avec ma casquette d'informaticien, au sens technique du terme.
Un canal qui a une audience, qui a une grosse audience.
Vous materez pas les réseaux sociaux. La solution, c'est que, effectivement, ça ne devienne plus un sujet, et pour ça, effectivement, faut être en capacité, comme ça avait été fait aux États-Unis ou ailleurs, d'aller identifier les personnes sur les vidéos, les poursuivre, les condamner. Mais quand c'est des mineurs, engager la responsabilité des parents, je l'avais dit aussi cet été sur les émeutes qu'on avait eues suite à la mort tragique de Naël, et là aussi, l'école doit aussi faire sa mue et son évolution pour avoir quelque chose qui permette aussi aux gamins d'avoir un système de valeurs et pas uniquement l'enseignement classique qu'on connaît.
Lobna, Sta, et ensuite Jimmy Delidou, et ensuite Philippe Boyek.
Alors, concernant moi, j'ai pas trop suivi l'affaire de la Foire du Trône, mais l'ultraviolence, pour moi, est devenue un jeu.
C'est pas
pour les jeunes.
Ouais, voilà, c'est devenu un jeu. C'est violence.
Voilà.
C'est ça que je veux entendre, c'est devenu un jeu.
C'est devenu un jeu, on se filme. Peu importe où, moi je me souviens de la Foire du Trône quand j'étais petite, j'allais avec mon père pique-niquer, on s'amusait, etc. Maintenant c'est devenu un jeu où on peut se filmer, on se filme.
Bah, j'aime bien cette histoire-là, c'est devenu un jeu.
Il y a une loi qui
sauf que ce jeu, ça commence à nous inquiéter.
Il y a une loi qui s'appelle la loi Avia, je sais, qui normalement devrait figurer sur les réseaux sociaux et justement limiter ce genre de...
De dérapage, de se filmer.
Je sais pas où ça en est, j'ai pas regardé ça de plus près. Mais pour moi, c'est devenu un jeu. Après, impliquer les parents. Je suis désolée, les parents font ce qu'ils peuvent. Quand on est, il y a un divorce sur deux.
C'est Ménadou Chénier qui fait référence aux parents.
Mais il y a un divorce sur deux. Il y a des mamans solo. Elles ont 3-4 enfants.
Elles sont dépassées, souvent les mamans.
Elles sont dépassées.
Mamans,
oui,
pardon.
C'est tout ce que je dis. Elles sont dépassées.
Mais oui, Ménadou Chénier, pourquoi vous dites oui? Souvent, la pauvre mère, elle va faire le ménage le matin très tôt, elle est crevée. Vous croyez quand elle a 3 ou 4 gosses?
Quand le gosse, il fait 1m70.
Il ne s'agit pas d'accabler un parent seul.
Quand le gosse, il fait 1m70, il dit je vais sortir. La maman, elle fait 1m60. Je vais sortir. Et tout. Et elle ne sait pas, la maman, ce que fait le gamin. Je suis désolée.
Je vais présenter ma mère, tu vois.
Oui, non, mais peu importe. Mais on n'est pas la même génération. C'est pas même. Moi, je suis pas ma mère. Moi, si demain j'ai un fils.
On parle pas de vos mères à vous, on parle des mamans aujourd'hui.
Aujourd'hui, moi, ma fille, si demain à 18 ans ou à 15 ans, elle fait. Je vais sortir et puis elle me fait un caca et puis elle claque la porte.
Donc en gros, c'est la faute aux parents. C'est la faute aux parents.
On va s'en occuper.
C'est la faute des parents.
Qu'ils ont un rôle. Je pense qu'ils ont un rôle.
Ah, vous écoutez pas, c'est la faute des parents.
Ils ont une responsabilité. Certaines là-dedans. On ne peut pas, un enfant, en particulier un mineur.
On nous dit pourquoi les frères arrivent et interviennent.
Je ne vous l'apprends pas, ça se passe bien au sein du foyer avec les parents et à l'extérieur, c'est un autre garçon parfois.
Il y a un phénomène de meute, il y a un phénomène de groupe.
Vous le savez.
C'est établi, mais bien sûr. On a tous grandi dans des endroits où on a pu l'observer.
Parce que Zemmour, son fils, il n'a pas fait que des belles choses. Morano, son fils, n'a pas fait que des belles choses.
Soit.
Et ce sont des parents également.
Et alors, mais ils ne sont pas forts. Exactement ce que je vous dis, c'est que c'est pas qu'une question de rang et de statut social et même de pouvoir d'achat. C'est une question de l'éducation qui a été donnée à ses enfants.
Mais tiens, je voudrais les entendre. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Voilà, je voudrais entendre les parents, puisqu'on les sollicite. Bah tiens, est-ce que c'est de votre faute? Voilà. Jimmy Dalidou. Bah
écoutez, je suis pas d'accord pour le, sur le fait que les seules et uniques causes seraient les réseaux sociaux et les parents. Effectivement, on peut pas non plus nier la réalité que, cette réalité que le noyau familial est une des causes, évidemment, parce que effectivement, si tu te reçois de, tu te reçois, moi je sais qu'à l'époque je vivais dans la cité des, dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stains, sincèrement ça s'est très mal passé. J'ai fait la cité des 3000 et le Clos Saint-Lazare à Stains, et quand j'avais mon père qui m'a regardé dans les yeux en me disant mon fils je t'aime, mon père adoptif, et qui m'a dit mon fils je t'aime, fais pas de conneries, je vais vous dire que ça change beaucoup de choses. Mais je vous dis, mais vous savez, en même temps Ménad parlait de valeurs. Le problème qui ce qui me choque dans la violence de maintenant, contrairement à la violence que nous on a vécue dans la cité, c'est que à l'époque c'était violent, mais il y avait quand même des valeurs, il y avait quand même une certaine limite à ne pas dépasser. C'est-à-dire que les gars, ils étaient violents, mais ils respectaient la mère de famille. Ils étaient violents, mais ils respectaient les petits frères.
C'est plus le cas, là.
Et maintenant, c'est une violence qui dérive et qui devient un peu dégénérée. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour être imbibé d'une valeur. La valeur, il faut d'abord un exemple. Il faut être légitime et il faut un exemple. Lorsque vous avez un gouvernement qui vous donne l'exemple de qui est l'exemple de gars qui s'enrichit toujours plus en créant de la misère sociale et qui souvent est mise en lumière des histoires de fous dans lesquelles on retrouve des magouilles, des éléments de corruption. Comment voulez-vous que nos jeunes soient imbibés d'une valeur constructive? Ils n'ont pas d'exemple devant eux. Le gouvernement et les hommes politiques sont un mauvais exemple. Et vous savez quoi? Si vous voulez des jeunes qui seraient moins violents, il faut changer les circonstances. Une circonstance violente engendre nécessairement des actions violentes. Philippe, c'est comme ça, ça fait partie de la vie.
Philippe Nadjiboyak. Alors,
oui, il y a de la violence. Mais en vérité, c'est quoi la réponse qui est donnée derrière? Si vous savez que vous pouvez commettre des méfaits parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes mineur, et que derrière il n'y a aucune sanction, qu'est-ce qui vous dissuade de pouvoir le faire? Moi, je voudrais saluer Valérie Pécresse et Éric Schall. Éric Schall, qui est le vice-président à la région de la commission sécurité, avec un excellent président de la commission, Frédéric Pechenard, le VP à sécurité, qui est l'ancien des patrons flics de France. Valérie Pécresse et Éric Schall ont mis en place l'agence régionale des intérêts généraux. Mmh. Et je veux vous dire l'efficacité que ça a. C'est simple, le message est clair. Tu casses, tu payes. Tu violentes, tu subis. Alors tu subis pas l'immondice, c'est-à-dire que on parle d'êtres humains et on se comporte humainement, mais ils sont encadrés, ils réparent
les préjudices. Et ça marche.
Et ça fonctionne.
Ça,
mais certains, les résultats sont clairs, nets et précis. Le taux de récidive, il est quasi nul. Mais simplement derrière, il faut qu'il y ait une justice qui se fasse. Parce que faut vous mettre à la place des policiers qui interpellent des jeunes et des fois des jeunes très violents, donc au péril de leur vie. Et moi, je tiens encore à rendre hommage à ce policier qui s'est fait renverser dans le Nord. Et j'entends pas les gens de la France Insoumise s'émouvoir contre cette racaille qui a voulu tuer un de nos anges gardiens, parce que c'est une tentative d'homicide volontaire. Là, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de banderole et rien du tout. Il y a la gauche qui trouve des circonstances atténuantes à des gens qui pourrissent la vie à tout le monde. Moi, et à un moment donné, ça suffit. Et donc, il faut aider ces parents qui sont isolés, ces parents qui sont démunis, ces parents qu'on met devant des responsabilités et comme tu l'as dit tout à l'heure, à la maison c'est des anges, à l'extérieur c'est des démons. Et ben moi je suis désolé, en tout cas Valérie Pécresse et Éric Schall ont mis en place cet outil. Pourquoi le gouvernement ne le décuple pas? Pourquoi le gouvernement ne nous donne pas les moyens de les mettre en application immédiatement?
Si vous lui dites que ça marche,
effectivement, et ça fonctionne.
Peut-être que M. Gabriel Attal devrait évidemment se pencher un peu sur...
Mais Gabriel Attal l'a dit à l'Assemblée, il a dit...
Mamassi, conseillère régionale, qui met en application un chantier d'insertion de jeunes qui ont été repeindre à un hôpital. À la clé, il y avait une récompense. Tu casses, tu payes, mais tu répares, tu reçois. La récompense était de pouvoir partir en congé. On a eu cette gauche vociférante sur les méthodes en disant vous faites travailler des gens gratuitement. Et ben Valérie Pécresse met en œuvre des choses. Alors, et il faut le saluer, il faut dire bravo. Je dis bravo.
Bon, en tout cas, vous dites bravo et je laisserai le soin évidemment aux autres de commenter cette situation. Je vais juste aller direction Normandie parce que je voudrais quand même qu'on traite ce troisième sujet. C'est Boualem. Bonjour Boualem.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous? Vous nous appelez de quelle ville de la Normandie?
Évreux, c'est
Évreux, bienvenue, bienvenue. On vous écoute, mon cher Boalem.
Je viens de finir ma journée de travail et je suis tombé sur votre reportage en incluant la responsabilité des parents, les enfants, la violence, ainsi de suite. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 3 ans, à Frontignan, dans une ville, je suis algérien. Quand on est arrivé en France, mon père nous expliquait que de la porte à la maison, on était en Algérie, et de la porte à l'extérieur, on était en France, qu'on n'était pas chez nous, qu'il fallait s'intégrer, savoir bien parler, bien s'habiller, s'habiller comme le pays qui nous reçoit, et on a été éduqué dans cette optique. Quand j'étais petit, à Frontignan, à 13, 14, 15 ou 16 ans, on faisait rien de grave, on voyait passer une voiture de police ou de gendarmerie, on tremblait, on se demandait ce qui se passait, et on avait un respect fou à la fois de l'autorité, moi et mes potes français, et à la fois au niveau de l'école. Ce que je trouve déplorable aujourd'hui, c'est qu'on a retiré les autorités à toutes les institutions. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai des enfants qui ont été éduqués, j'en ai 4 qui sont éduqués d'une façon optimale pour moi, dans le même cadre que ce que j'ai été éduqué, ils sont tous nés en France. Mais quand je vois comment aujourd'hui la France, on en est arrivé à ce point-là, quand on voit des émissions comme 90 minutes enquête, où on voit des policiers qui sont insultés pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, avant de dire on met les menottes, on embarque, ils se font traiter de tous les noms, on embarque le suspect au poste de police, et le lendemain, le suspect, il est dehors, les policiers vous disent, mais voilà, c'est tous les jours comme ça. On dénigre l'école, on dénigre la gendarmerie,
je crois qu'il y en a un qui va être d'accord avec vous, c'est Philippe Nedjiboye qui, c'est l'autorité.
Complètement.
Retrouver l'autorité. Merci Boalem pour votre intervention. Non, parce que je rends l'antenne dans pas longtemps, c'est pour ça Boalem. Mais c'était important, évidemment, reparler de cette autorité et replacer l'autorité au cœur de ce dispositif. Merci Boalem, vraiment c'était très intéressant. Philippe Nedjiboye qui?
Oui, Boalem a bien résumé la situation. L'autorité fait foi, l'autorité fait loi. Jimmy a raison sur le devoir d'exemplarité, ça c'est indéniable. Là, on est tous d'accord là-dessus, moi je partage ton avis. Mais lorsque tu sais que tu vis en société, il y a des règles à respecter. Et si tu n'es pas en mesure de respecter ces règles, c'est pour ça c'est à l'autorité c'est pour ça qu'en fait, de
l'appliquer. Attention, parce que lorsqu'on parle d'autorité, il faut être précis dans cette notion. Parce que l'autorité, c'est pas uniquement l'autorité de la répression et l'autorité des coups de bâton. La première forme d'autorité dont découle tout le reste, c'est l'autorité morale. Et de l'autorité morale découle une justice qui mettra en exergue, en application, une autorité morale. Mais lorsque vous n'avez pas d'autorité morale, alors tout part en vrille. Ce qu'on a en France actuellement.
Avant de rendre l'antenne, je voudrais juste faire un tour de table, s'il vous plaît. Vous savez quoi? C'est une déclaration. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Ça, vous savez quoi? Ça a été lancé par Georges Bensoussan, qui était l'invité débatteur sur CNews. Comment doit-on interpréter cette déclaration, Ménadou Chénir?
Comme une déclaration qui vise à faire le buzz parce que CNews a besoin de faire de l'audience. Voilà. Dans les faits, c'est encore une énième dérive de présenter Jean-Luc Mélenchon. Alors, parfois, je suis pas mélenchoniste pour deux sous, mais de le présenter comme un fasciste ou je ne sais quoi, ça sert juste à faire le buzz et faire un peu gratter un peu d'audience.
L'Obna.
Moi, je pense que Mélenchon, c'est aussi le marchepied. Il rêve de voir Marine Le Pen au pouvoir. Je pense. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Et je pense qu'avec ça, il est exactement comme Macron.
Le fascisme est le chien de garde des forces du capital. Et pour le mettre en avant, pour lancer leur chien, ils n'ont pas besoin de Monsieur Mélenchon. Je ne suis absolument pas d'accord avec Monsieur Benfoussan. Ça, c'est outil à faire du clash, des vues, surtout via une chaîne, on connaît comment elle fonctionne.
Philippe Nedjiboyek.
Ouais, on sait comment elle fonctionne. En tout cas, elle donne la parole à tout le monde. Moi, je remercie encore infiniment CNews de nous inviter et d'inviter tout le monde, y compris les gens qui ne pensent pas comme eux.
Ah, ça ne les empêche pas de dire des conneries.
C'est une réalité. En tout cas, Mélenchon, c'est vrai, c'est la courroie de transmission du Rassemblement National. Il se rêve au deuxième tour face à Marine Le Pen. C'est quelque chose qui peut arriver, ça, c'est clair. Oui. Mais je pense qu'au deuxième tour, Marine Le Pen le fracassera de toute façon.
Merci, monsieur. Madame. Merci, Loblastin.
Merci à toi, Adil.
Merci, Adil. Merci,
l'écologie au centre.
Merci,
Ménadou Chénir.
Merci, Adil.
Jimmy Dalidou.
Merci à tous.
Au plaisir.
Merci aux auditeurs et aux auditeurs.
Merci à Dil,
monsieur le conseil régional.
Merci à vous tous.
Merci
encore
Philippe Djiboyeki.
Merci
à Solal. À la réalisation, c'est Bilan Nenman, Time Sport, Confidence avec Vanessa. Demain, c'est Kim. Et à demain soir, avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.